On continue la petite étude sur Jacques. On est rendu dans Jacques au chapitre 1, le verset 6 à 8 ce soir. Pour vous remettre dans le contexte, Jacques a envoyé une lettre à tous les chrétiens juifs qui étaient dispersés dans alentour de Jérusalem et dans la Judée, dans Samarie, puis juste aux extrémités de la terre. Partout, il y avait des chrétiens qui étaient dispersés à cause de la persécution, puis ils trouvaient le temps dur. Puis là, Jacques lui dit, regardez ça comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez être en train de vivre. Ils sont dispersés, puis il lui dit, regardez ça d'une manière de joie complète. C'est sûr que c'est pas évident. Puis Jacques leur a donné la recette. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Fait qu'on a besoin de la sagesse de Dieu pour être capable de discerner que je dois être dans la joie quand ça va mal. Parce que humainement parlant, c'est impossible de penser qu'on est dans la joie quand ça va mal. D'habitude, quand ça va mal, les Québécois, c'est des sacs, des jurons, des blasphèmes, des malédictions, toutes sortes. Ils invoquent tous les saints, toutes les morts, ils invoquent tout. Jésus, lui, quand tu es chrétien, c'est on rend grâce à Dieu en toutes choses. Amen.
Amen.
On apprend à trouver le bon côté. Pourquoi qu'on a ces épreuves-là, que Dieu veut se servir de ça pour nous former. Puis il nous dit de regarder ça avec joie. Puis là, demandez-le à Dieu, la sagesse de Dieu. Il a dit, Dieu donne à tous, simplement et sans reproche, elle nous sera accordée. On est rendu là ce soir, regardez la suite de ce verset-là, dans Jacques 6, le verset 8. Ça dit, quand tu demandes à Dieu, Dieu est prêt à donner à tous, simplement et sans reproche, elle sera accordée. Dieu veut nous donner sa sagesse, comme qu'on avait le deux semaines, il veut nous donner son intelligence, sa connaissance, sa révélation, sa protection, ses bénédictions, il veut tout nous donner. Mais, là, en regardant la suite du verset, ça dit, dans Jacques 1, 6, ça nous dit, mais quand tu demandes la sagesse à Dieu, il va te la donner, mais qu'il la demande avec foi. Il est là le petit hic. Faut te la demander avec foi, sans douter. Parce que le doute, c'est le contraire de la foi. Si tu veux demander avec foi, faut pas que tu aies de doute. Si tu as du doute, tu demandes avec doute. Si tu doutes en demandant, tu ne l'as pas, c'est sûr. Ça nous dit dans le verset, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Fait que ce soir, c'est ça qu'on va éplucher sur la question de demander avec foi, sans douter. Dieu, il est prêt à tout donner ce qu'il y a dans sa parole, mais il faut que tu aies de la foi. Puis ce qu'il faut se débarrasser, c'est le doute. Pourquoi qu'on doute? Pourquoi qu'on n'est pas sûr que Dieu veut vraiment faire les choses? Pourquoi qu'on demande à Dieu, on laisse passer un doute dans notre esprit? « Ah, oh, mais ça marche pas tout le temps. Ah, oh, ça marche, ça va-tu vraiment marcher? Ah, oh, moi, je mérite pas d'être exaucé. Ah, oh, là, toutes les idées qu'on rajoute dans quand on est en train de prier, c'est des blocages qui nous empêchent d'obtenir des réponses de Dieu. C'est pas parce que Dieu est pas capable de le faire, mais Dieu a choisi de répondre à ceux qui demandent avec foi. » Le doute, là, c'est une immense barrière qui nous empêche d'être exaucés. C'est pas Dieu qui peut nous la faire tomber. Il pourrait, c'est sûr, il aurait pu faire de nous des gens qui doutent point. Des gens remplis d'une conviction. Il peut faire ça s'il veut. Mais il nous a laissé comme un peu à nous-mêmes, puis il nous donne la parole pour pouvoir qu'on puisse apprendre à mettre notre confiance en Dieu. C'est comme s'il veut qu'on fasse un effort pour nous débarrasser des doutes, puis appuyer notre confiance dans ce qu'il a écrit dans sa parole. Il veut qu'on y arrive. Vous allez voir, comme dans Hébreux 4.2, ça nous dit, cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Fait que la parole de Dieu qui nous sauve, c'est le message de Jésus-Christ. Nous, on l'a reçu, on y a cru. Puis ça a produit quelque chose, notre vie, elle a changé. Pourquoi que la même parole rentre dans le cœur de quelqu'un qui ne croit pas, puis ça produit rien? Pour quelle raison? Est-ce que la parole de Dieu est moins puissante? Est-ce que la parole de Dieu est pas efficace? Elle marche de temps en temps, mais elle marche pas tout le temps. Ou c'est la même parole de Dieu qui peut sauver des vies, elle nous a sauvés, puis elle a changé nos vies, mais pour ceux qui croient pas, ça change rien. Elle fait pas d'effet dans leur vie. Si ça nous a été écrit, ce passage-là, c'est parce que Dieu veut qu'on réalise que quand les choses fonctionnent, c'est parce qu'on avait la foi, puis quand, si on fond, on croit pas, il se passera rien. Il y a un autre passage qui nous parle de ça, que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été accomplies à cause de l'incrédulité des gens. Puis ça nous est servi, c'est mis là, là, c'est des exemples dans le but qu'on puisse réaliser que l'incrédulité nous empêche d'obtenir des choses. Ça, on voit ça dans Hébreux 3, le verset 16. Ça parle du peuple juif qui, après avoir été sorti d'Égypte, ils ont vu pourtant des miracles, la puissance de Dieu, les 10 plaies d'Égypte. Ils ont vu comment les Égyptiens, ils ont sorti de là, de l'Égypte, puis ils ont vu ils ont vu l'ange de Dieu, ils ont vu la nuée, c'était comme une nuée dans le jour, c'était comme un gros nuage dans le jour qui les guidait, c'était Dieu. Puis dans la nuit, c'était une flamme de feu qui les guidait. Dieu était là, ils voyaient Dieu quand la nuée se levait, là tout le peuple ramassait leurs affaires, puis ils partaient en marchant suivant la nuée, quand la nuée s'arrêtant, ils s'installaient puis installaient leur tente. Ils ont été conduits de même pendant 40 ans. Puis ça nous dit, « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. » La promesse d'entrer dans la terre promise était donnée, Dieu était avec eux, Dieu les a fait sortir d'Égypte, mais s'ils n'ont pas rentré, c'est à cause de leur incrédulité. Ils ont vu, ils ont entendu, ils étaient témoins, mais il y avait quoi en eux? Le doute, la même chose qu'Adam et Ève. Là. Quand le diable est allé voir Ève, il a dit, « Dieu, as-tu réellement dit ça? » Puis là, le doute s'installe. Une fois que le doute s'installe, là, tu remets tout en question. Là tu es ébranlé. Là, c'est là que tu commences à être comme celui qui doute, il est comme des flots de la mer agités par les vents. Tu es ébranlé. Tu marches plus dans la fermeté. Tu es plus sûr. Tu doutes. Mais le peuple juif, quand le doute est rentré, là, ils voyaient la main de Dieu, ils voyaient miracles, mais dans leur cœur, ils étaient incrédules. Puis là, ils désobéissaient à Dieu, puis ils déplaisaient à Dieu. Puis là, ils n'ont pas rentré. Ils sont tous morts dans le désert, cette génération-là, qui était sortie du peuple d'Israël, de l'Égypte, je veux dire. Ils sont sortis de l'Égypte, puis tous les adultes qui étaient sortis de l'Égypte sont tous morts, ils ont péri dans le désert. C'est juste leurs enfants qui ont rentré dans la terre promise, et Josué et Caleb, qui est deux seuls, qui étaient les ancêtres, des vieux qui étaient là, sortis de l'Égypte, qui ont pu rentrer. Mais tous les autres ont péri dans le désert. C'était pour nous servir d'exemple, pour nous montrer que nous, en tant que chrétiens, faut pas imiter ce monde-là qui marchait toujours dans le doute, puis dans l'incrédulité, puis dans la désobéissance, dans le péché, puis de faire à notre tête, puis à pas se soumettre à Dieu. Dieu veut nous bénir, il veut tout nous donner, mais il veut nous apprendre à obéir, même quand tu es chrétien. Puis d'autant plus parce que tu es chrétien, il faut apprendre à obéir. On a abandonné, on s'est repenti de notre vie de péché, on s'est détourné de notre vie de péché pour suivre Jésus. Fait que là, quand tu t'engages à le suivre, il t'a sauvé, ta vie a commencé à changer, pareil comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Leur vie a commencé à changer. Ils n'étaient plus esclaves en Égypte. Mais là, on est rendu là, dans notre marche de tous les jours. Voulons-nous n'en voir plus la main de Dieu dans nos vies? Si on en veut plus, mais il faut, premièrement, tu veux être exaucé dans tes prières, arrête de douter. Arrête de c'est de l'incrédulité, de doute. C'est le contraire de la foi. La foi, là, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Tu crois. Dieu a promis ça en sa parole, ça va arriver parce que c'est écrit. Ça, c'est la foi. L'incrédulité, « Oh, je suis pas sûr. Oh, ça marchait dans le temps de Jésus. Oh, les dons spirituels, c'était juste dans ce temps-là. Oh, les exaucements de prière, des fois, Dieu veut t'exaucer, des fois, il veut pas t'exaucer. » Jésus, il a dit à Marthe et à Marie qui étaient là quand Lazare était mort, Jésus, il s'en venait là pour ressusciter Lazare. Puis Jésus lui-même a dit, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ça, c'est dans Jean 11, 40. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Puis là, il dit, « Ton frère Lazare va ressusciter. » Je le sais qu'il va ressusciter à la fin. Non! Il voulait le ressusciter là. Puis là, il dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Fait que si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, faut que tu te mettes à croire ce qui est écrit. Tu dissipes les doutes de ta pensée, t'enlèves l'incrédulité. Faut que tu aies la foi, faut que tu crois qu'est-ce qui est écrit. On a cru pour accepter Jésus pour être sauvé, mais il faut continuer à croire aussi que Dieu veut exaucer nos prières. Et si tu demandes des choses à Dieu, faut que tu les demandes sans douter. Parce que si tu doutes, tu es semblable au flot de la mer, agité par les vents, tu es tout ébranlé par tes doutes. Puis là, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Quand on dit un tel homme, ça comprend aussi les femmes. Faut pas penser qu'on va être exaucé si on a des doutes dans nos prières. Puis si on n'est pas exaucé le trois quarts du temps, c'est parce qu'on a douté. Si on est franc, là, on doute quand on prie. Mais faut pas douter, faut dissiper tout doute. Abraham, là, hein, il était appelé le père de la foi. C'est pas pour rien qu'il était appelé le père de la foi. Parce qu'il avait la foi. Il a vécu des expériences là que c'est impossible humainement parlant que ça fonctionne, puis que ça a fonctionné parce qu'il a mis sa foi en Dieu. Il a cru, malgré que c'est impossible humainement parlant, que ça l'arrive. Dans Romains 4, 18 à 22, ça nous en parle. Abraham, il a espéré contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui a été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il considéra pas que son corps était déjà usé. Il y avait près de 100 ans quand il a mis sa femme enceinte. Toute sa vie, sa femme était stérile. Elle était rendue à 90 ans, sa femme. Lui, il avait 99 ans. Elle avait ri, elle avait trouvé ça drôle, elle doutait, mais c'est pas elle la mère de la foi, c'est lui le père de la foi. c'est la foi d'Abraham qui a été exaucée. Oui. Puisqu'il y avait près de 100 ans que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point. Abraham, il ne douta point. Dieu lui a dit, tu vas avoir de toi va sortir une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer. Lui, à 99 ans, il n'a pas eu d'enfant avec Sarah. Puis Dieu lui a dit, c'était avec Sarah que tu as pu en avoir un. Lui, il était capable d'en avoir des enfants parce qu'il a fait un enfant à sa servante une dizaine d'années avant. Mais avec Sarah, Sarah était stérile, puis Dieu lui a dit, c'est d'elle que ça va sortir. Il ne douta point par incrédulité. Fait que le doute, quand on a des doutes, c'est parce que c'est par incrédulité. On est des incrédules. C'est le contraire de la foi, un incrédule. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, puis il donna gloire à Dieu. Fait que là, il a été rempli d'une assurance, puis il avait confiance que si Dieu lui a promis, ça va s'accomplir, puis merci Seigneur pour la promesse qui s'en vient. C'est ça, être fortifié par la foi, puis donner gloire à Dieu. Ça s'en vient, Dieu va le faire, puis il ne doute pas. Il t'a rendu peut-être un petit peu, trouva ça le temps long, rendu à 99, mais Dieu, il aime ça, faire des choses que ça a de l'air, c'est impossible que ça s'accomplisse par la main humaine. Fallait l'intervention de Dieu pour que ça aboutisse, qu'elle tombe enceinte. Elle était stérile, puis elle a rendu à 90 que son corps était même plus dans ses règles, autrement dit. Ça marchait plus, le système t'a arrêté. Mais Dieu est capable, malgré tout ça, puis il l'a prouvé, puis ça l'était fait. Il fut fortifié, puis donna gloire à Dieu, puis ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. Faut dire un amen à cela. Ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Amen. Est-ce qu'on croit que Dieu est capable de faire ce qu'il a promis? Dieu est capable de faire tout ce qu'il a promis. Son bras, il est pas trop court pour agir. Nous autres, il est court, notre bras. Moi, je peux pas me rendre plus loin que ça, fait que je peux pas faire grand chose, hein. Dépasser cette portée-là, je suis capable de rien faire. Dieu, là, il y a rien qui est impossible à Dieu. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est encore plus fort. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Fait qu'il faut arrêter de regarder à nous, à regarder à nos capacités. Faut commencer à mettre notre foi dans les promesses de Dieu. Si Dieu a promis qu'il nous donnera la sagesse d'en haut, doute pas. Il a dit, il donne à tous simplement et sans reproche, ben, lui sera accordé. Fait qu'il faut pas demander avec des doutes. Faut croire. Une ferme assurance, Dieu m'a promis qu'il me donnera la sagesse d'en haut, puis je m'attends à la recevoir. Ça, c'est cette promesse-là, mais prenez n'importe quelle promesse de la Bible. Si Dieu l'a promis, c'est écrit noir sur blanc, Dieu est capable de le faire. Dissipez vos doutes, chassez vos doutes. Les doutes, là, hein, c'est comme un bâton que le diable te met dans tes roues. Enlevez les bâtons dans votre esprit. Ils sont là juste pour vous enfarger, pour vous empêcher de saisir par la foi les promesses de Dieu. Prenez autorité dans le nom de Jésus contre les bâtons. C'est des bâtons du diable. Chassez ça. Croyez, croyez. Ça donnera quoi à Dieu de nous promettre des choses s'il n'y a pas vraiment l'intention de les faire? Il nous fait perdre notre temps. On n'est même pas sûr d'aller au ciel. C'est la même affaire, c'est par la foi qu'on a saisi la promesse. Puis si on n'est même plus sûr que Dieu voudrait vraiment nous sauver, puis on arrive à la fin, « Ah, c'était juste une joke, je ne voulais pas vraiment vous sauver, vous en allez tous en enfer. » Ça aurait donné quoi? Dieu, il niaise pas le monde de même, il n'est pas menteur, premièrement. Il y en a un qui est menteur, c'est le diable. Dieu, c'est la vérité. Puis Dieu ne ment pas. Puis s'il a promis quelque chose, il a la capacité de le faire, puis il veut le faire. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Il veut exaucer.
La relation d'Abraham avec Dieu était très forte.
Oui, puis il veut nous amener à être dans la même foi, une ferme assurance. Dieu y est prêt et disposé à exaucer ses promesses, toutes ses promesses. Dans 2 Corinthiens 1, le chapitre 1, verset 18 à 20, ça nous dit, « Aussi vrai que Dieu est fidèle. » Dieu, il est fidèle. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un hypocrite. Il n'est pas quelqu'un qui nous promet de quoi, puis il nous laisse aller, puis il dit, « C'est rien qu'une joke. » Dieu est fidèle. La parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. C'est oui. Dieu veut qu'on pense... Dieu, s'il nous promet ça, c'est oui. C'est pas oui et non, la parole qu'on reçoit. C'est oui. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui est en lui. En Jésus, c'est oui. C'est amen. C'est oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. Car, regardez bien le verset 20, « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » Toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est pas oui et non, c'est oui. Dieu veut nous donner toutes ses promesses. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera accordée. C'est oui qu'il veut nous le donner en Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de la sagesse que tu es en train de me donner. On rend gloire à Dieu. On devient fortifié. Dieu m'est en train de me donner sa sagesse d'en haut. Merci Seigneur de la sagesse d'en haut que tu es en train de me donner. C'est ça qu'Abraham faisait. Puis il y a des révélations que j'ai eues justement là-dessus, sur la confession de ce que nous croyons. Il donna gloire à Dieu. Il confessait, il l'avait pas encore reçu, mais il rendait grâce à Dieu d'avance pour la chose qui s'en venait. Faut comprendre que c'est ça qu'Abraham faisait dans ce qu'on voit dans le passage. Puis il y en a d'autres passages qui nous parlent de cela dans le même sens. Nous devons travailler sur nos doutes et demander à Dieu de nous affermir dans la foi pour qu'on puisse recevoir, frères et sœurs. Si vous voulez recevoir des exaucements de prière, faut travailler sur nos doutes. Faut enlever les bâtons du doute. Puis de demander à Dieu de remplir nos cœurs dans la foi. Dans Luc 17, le verset 5 et 6, ça nous parle des apôtres qui dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi! » Puis le Seigneur, là, il dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi, puis plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Imaginez, les disciples arrivent auprès de Jésus puis ils disent « Augmente-nous la foi ». Qu'est-ce que Jésus a fait pour leur augmenter la foi? Il leur a dit, il leur a déclaré que si vous dites ça, sans douter, ça va marcher, il va se faire. Il leur a donné une promesse, il leur a donné une déclaration formelle que c'est de même que ça marche le monde spirituel. Si tu doutes pas, puis tu commandes à un arbre de s'arracher, puis jette-toi dans le fleuve Saint-Laurent, l'arbre va s'arracher, il va jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Si ça le fait pas, c'est parce qu'on doute. Il faut arriver à un niveau de foi au-delà, beaucoup au-delà de ce qu'on a. On demande à Dieu, augmente-nous la foi. Puis quand on demande à Dieu, augmente-nous la foi, mais il faut s'attendre qu'il nous réfère à ses promesses, puis nous dire, regarde que j'ai promis. Puis assis-toi là-dessus. Assis-toi sur cette phrase-là. Si tu aurais la foi gros comme un grain de moutarde, tu dirais à l'arbre de s'arracher, puis de jeter dans le fleuve, puis il jettera dans le fleuve. Mais il faut pas douter. Et il vous obéirait. On arrive pour chasser un mauvais esprit, c'est la même affaire. Pourquoi que le mauvais esprit nous écouterait? On lui dit de sortir de cette personne-là. On brise tes liens, on brise tes chaînes, puis on te commande de t'en aller de sa vie, de le laisser tranquille, puis de t'en aller. On le chasse, on lui commande de s'en aller. On doute pas dans notre cœur. On croit ce qu'on est en train de dire, ça l'arrive, puis on est en train de le voir s'accomplir. Là, il se pose de quoi, puis ça sort. C'est ça, la foi. Il faut arriver à cette foi-là. Puis de toutes les promesses de Dieu par la suite, on va recevoir plein d'exaucements parce qu'on s'est débarrassé de ce qui nous empêche d'obtenir, c'est nos doutes, notre incrédulité. C'est la même chose que le peuple juif, c'est ça qui les a bloqués puis qui les a empêchés de rentrer dans tes promises. Même s'ils étaient déjà partis pour rentrer, en cours de route, se sont rebellés contre Dieu à cause de leur incrédulité. Le dernier passage, Jésus nous demande d'avoir confiance en Dieu. Jésus nous demande d'avoir confiance en Dieu. Dans Marc 11, 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Si Dieu a promis quelque chose, il va le faire. Il veut le faire. C'est pas si, si, peut-être, puis ne, peut-être que, puis même c'est non. Non, c'est oui. Les promesses sont oui. C'est écrit là, la promesse, c'est des oui pour toutes ces promesses. Il dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, puis va te jeter dans la mer, s'il doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit qui arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est un autre passage que Jésus nous dit de croire sans douter. Il faut dissiper nos doutes. On dit à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Si on dit, oh, mais ça, c'est un qu'au sens figuré. Oh, ça, c'était juste les 12 apôtres qui pouvaient vivre ça. Jésus est arrivé à côté d'un arbre, puis il a dit que jamais de fruits ne naissent de toi. Le lendemain matin, l'arbre était rendu sec. Toutes les feuilles étaient mortes, l'arbre t'a rendu sec. Il est tombé mort. Puis les disciples, le lendemain, ils l'ont vu. Ils ont dit, hey, maître, l'arbre que t'as maudit, il a séché. Mais Jésus, il a cru quand il a prononcé ces paroles-là. Il croyait que ce que l'arbre était pour sécher, puis l'arbre a séché. C'est la même affaire pour toutes les promesses de Dieu. Si on veut saisir les promesses de Dieu, faut que notre foi augmente. Faut qu'on enlève nos doutes, puis il faut qu'on dise, puis pour qu'elle augmente, il faut s'appuyer sur les versets. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Puis là, il dit, tu vas le voir s'accomplir, puis au verset 24, dans ce verset-là, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que ça marche pour toutes les prières que vous êtes en train de faire. Tu demandes de la sagesse à Dieu, crois que tu es en train de s'accomplir, puis tu vas la voir s'accomplir. Puis rends gloire à Dieu pour cette promesse-là que tu es en train de s'accomplir. Puis Dieu va le faire, puis il va honorer sa parole, puis Dieu, il va être content qu'on soit content, parce qu'on va être content, puis Dieu va être content qu'on soit content. Il attendait qu'on demande avec foi. Dissipons les doutes. Puis la dernière conclusion, tous les hommes de Dieu qui ont vécu des miracles qu'on voit dans la Bible, tous les hommes de Dieu qui ont vécu des miracles qu'on voit dans la Bible, tous les exemples dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ils ont dû mettre leur confiance en Dieu puis avancer par la foi. Ils ont osé prononcer des choses que Dieu leur avait dit puis ils ont vu les choses s'accomplir. Tous les miracles. Même Moïse, quand il est allé voir le Pharaon, il aurait pu dire d'un coup, ça marche pas, puis là, je vois pas. Il aurait pu reculer. Non, il a cru. Dieu, il a dit, mets ta main dans ton manteau. Il a mis sa main, sors ta main, elle était pleine de lèpre. Il dit, remets ta main, puis ressors-la, mais t'as rendu parfaitement saine comme l'autre. Fait que là, il dit, va voir le Pharaon, puis va y faire ça. Il part par la foi, lui, là. Il est un homme comme nous autres, là. Il est parti par la foi, puis il l'a fait, puis là, la puissance de Dieu s'est manifestée. Puis après ça, quand Dieu il avait dit de jeter sa canne à terre, mais Aaron jeter sa canne à terre, s'est changé en serpent. Ça s'est tout accompli comme Dieu il a dit de le faire, ça s'est fait. Mais toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Si on veut voir la main de Dieu, mais il faut apprendre à demander par la foi, comme les autres qu'on voit dans la Bible. Élie, c'est la même chose. Il a dit, parce que Dieu il a dit, confesse qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Il a proclamé cette chose-là. Il n'y aura plus, pas de pluie sur Israël sinon à ma parole. Puis il a arrêté de mouiller, puis il n'a pas mouillé pendant 3 ans et demi de temps. Ça, c'est la foi de cet homme-là, en la parole que Dieu lui avait donnée. Il l'a prononcé, ça s'est accompli. Après ça, quand il a dit que ça revenait, c'est revenu. On veut-tu voir la main de Dieu dans nos vies? Amen. Qu'est-ce qu'on a à faire? Enlevons nos doutes, chassons nos doutes, puis commençons à saisir par la foi, puis demandons avec foi sans douter, puis remercions Dieu d'avance pour les choses qui s'en viennent. Amen.